Hello, c'est Ange. J'écris sur la Creator Economy et vous êtes sur le podcast Planet Creators. Planet Creators, c'est l'émission qui va à la rencontre des entrepreneurs, investisseurs et professionnels de l'industrie de la création de contenu. Je co-anime souvent l'émission avec un, deux ou trois autres buddies pour te donner les clés de l'industrie des creators et découvrir les champions d'un marché à plus de 100 milliards de dollars. Cette émission est produite par le réseau de podcasts AirParty. AirParty, c'est aussi TechSource, le podcast pour découvrir les sources de veille des acteurs de la tech, mais également TechParty, l'émission des communautés tech. Pour retrouver toutes les émissions du réseau, direction airparty.network. Bonne écoute.
Donc bonjour à tous, donc, bienvenue sur le podcast Planet Creator. J'accueille aujourd'hui du coup un nouvel invité, Samuel Morin. Bah écoute, je te laisse te présenter rapidement dans les grandes lignes et dis-nous un peu qui tu es et ce que tu fais chez Brut.
Ok, bah, je m'appelle Samuel, je travaille chez Brut depuis 3 ans, j'ai 28 ans et je gère du coup une BU qui s'appelle maintenant Brut Publisher Solutions et qui avant s'appelait Brut for Creators et qui en gros livre du service à des publishers maintenant de différents types, mais toujours quand même dans le secteur de la créateur économie. Donc soit on va aider des créateurs de contenu, soit aider des gens qui ont besoin d'une expertise, pour le coup, sur des créateurs de contenu, mais qui eux-mêmes ne sont pas des créateurs tels qu'on l'entend, en tout cas aujourd'hui. Quoi.
Ok, quand tu veux dire donc pas des créateurs en tant que tel, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui sont nés de YouTube, Insta ou autre, c'est plus
exactement,
des gens...
c'est des gens qui ne sont pas natifs,
d'accord,
mais qui ont besoin d'exister dans ces espaces-là,
okay,
et qui ne savent pas forcément comment faire, et du coup qui ont besoin d'une expertise, mais qui va être livrée... dans des codes qu'ils comprennent, quoi. Donc, comme on est un média, on a en fait un peu le meilleur des deux mondes. Et donc, on accompagne d'autres médias, plus gros, plus traditionnels, pour aller vers ça.
Ok. Donc, on peut penser par exemple à des sportifs, à des journalistes ou à...
Ouais, carrément.
Ouais. Ok, c'est ce type de personnes-là. Carrément. Et des entrepreneurs aussi, vous t'accompagnez ou bien...
Bah, en fait, le, pour l'instant, en tout cas, le business model, c'est vraiment on accompagne des organisations qui ont des visages.
Ok, d'accord.
Et ces visages, il faut les digitaliser, même okay, si j'aime pas trop ce terme. Mais en gros, donc, il faut les aider à se développer en social media, il faut les socialiser.
Okay.
Et donc, c'est ce qu'on fait du coup en réutilisant les talents et l'expertise qu'on a sur des créateurs de contenu qu'on a déjà accompagnés dans le créateur de programme. Donc, on okay, a ces deux typologies en fait, de clients. Quoi. On a des créateurs, des youtubeurs et des orgas beaucoup plus grosses, des médias beaucoup plus gros qui ont des visages dont on essaie de faire des créateurs.
Ok, d'accord. Donc, on pivoter des... on va dire là... Je vais en faire un néologisme, mais créatorisation, on va dire, de...
Ouais,
de,
ta, de... Ouais, on a ça, ouais.
Ok, et du coup, donc, j'ai un peu vu ton LinkedIn, on a un peu discuté quand on s'était vu début de l'année. Au début, tu étais data analyst et du coup, tu es passé après sa partie créateur. Un peu comment s'est passé un peu tout ça? Je suis curieux.
Ouais, c'est un shift pas évident. Alors en fait, ouais, je suis rentré chez Brut en tant que data analyst. À l'époque, c'était une toute petite équipe. Je crois que j'étais le deuxième. Enfin, je suis sûr, okay, je te dis, je crois, mais j'étais le deuxième. Donc on était deux. Et on a fait beaucoup de choses, on a défriché beaucoup de sujets, parce qu'il y avait des sujets en fait à la fois hard data, donc plutôt technique, engineering, etc., sur lesquels on avait besoin d'avancer et de se professionnaliser, mais il y avait aussi des sujets juste de business analysis sur lesquels il fallait vraiment qu'on développe beaucoup de choses, beaucoup d'outils, mais aussi beaucoup d'études, beaucoup d'analyses et tout. Donc j'ai fait beaucoup de ça au début.
Ouais.
Et en fait, assez rapidement, on a commencé avec l'équipe à manager du produit. Data, on avait des scientists, on avait des ingénieurs et on a commencé à sortir des outils un peu pour les équipes éditoriales, pour le management, etc. Que ce soit des outils de reporting, mais aussi des outils de listening, etc. Enfin, pas mal de choses en fait, quand on y pense avec les moyens qu'on avait. Ça, maintenant, c'est une grosse équipe.
Okay. Data. Ils sont combien aujourd'hui par exemple?
Je crois qu'ils sont une quinzaine.
Ah ouais, d'accord, ouais, 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 ça remonte vite. Hein.
Ouais, avec une direction qui est au COMEX de Brut, enfin c'est... Okay. Une belle équipe et un bon investissement de Brut. Super important d'avoir cette plateforme data pour nous. Mais donc du coup, à l'époque, ça m'a pas mal permis de toucher à beaucoup de choses, de manager du produit, du coup de comprendre comment tu gérais une roadmap produit et tout ça. Et aussi de faire beaucoup d'études d'opportunités, en fait, que ce soit sur différents marchés géographiques, mais aussi sur différents marchés plutôt tech. Et en fait, on arrive du coup à 6 mois après mon arrivée chez Brut, on arrive en juin. Il y a une très très grosse levée de fonds qui marque un peu un tournant quand même, qui est la levée de Jelly dans la Creator Economy. Et mais au même moment, tu as The Information, le média américain, ouais, qui lance, euh, qui lance tout un secteur créateur économie, newsletter. Enfin, tu sens que
c'est la grosse hype qui montait
à ce moment-là. En gros, à ce moment-là, tu as la crypto, tu as, je sais pas moi, la delivery, et puis tu as la créateur économie, quoi.
Ouais, c'est ça. Je me souviens de cette période-là, c'était fou. En fait.
Les choses ont changé depuis, mais.
Bon, pour les trois parties, en fait.
Pour les trois, de ouf. Exactement. Mais du coup, donc. Secteur qui était vraiment monté en puissance. Et par ailleurs, on commençait, nous, à vraiment maîtriser une stack en fait, technique de super créateurs pour Brut. Donc, okay. Tous les outils qu'on avait déjà commencé à développer, en fait, on se disait, mais tout ça, ça pourrait être grave utile à des créateurs individuels qui n'ont pas forcément les moyens de se payer deux data analystes et quatre ingénieurs et des devs et tout pour développer des trucs. Et donc, en fait, c'est Guillaume, le CEO de Brut, qui a identifié vraiment l'opportunité, qui nous a mis dessus avec mon équipe en mode étude d'opportunité qu'on a faite. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait sans doute une opportunité de monter un créateur programme pour Brut. Et puis après, en startup, ça s'organise souvent comme ça. Il faut un lead. Ouais. Du coup, toi, tu vas faire le proof of concept, puis on verra bien. Puis en fait, le proof of concept, il se passe plutôt super bien. Et puis 4 mois après, il faut faire grandir le projet parce qu'il y a des objectifs à atteindre, il y a des investisseurs à convaincre, etc. Et du coup, c'est comme ça en fait, que ça s'est transformé petit à petit en un truc assez costaud, quoi.
Ok, ouais, donc c'est vraiment de manière incrémentale. Au début, il y avait une opportunité.
Super incrémentale.
Et après, au fur et à mesure, vous avez rajouté une couche après l'autre et ça a devenu une équipe de 15 en fait, avec ses objectifs, son PNL, enfin, un truc comme ça, quoi.
Alors, 15, c'est l'équipe data.
Ah, pardon,
l'équipe
data,
pour le coup, c'était. On a beaucoup, beaucoup grossi l'équipe. Maintenant, elle s'est réduite parce qu'on a encore une fois, on a fait le pivot, on a compris aussi plein de choses. Au pic, on était 28 quand même dans le créateur programme. Wow, enfin, sur la partie créateurs, j'avais 28 personnes en management, ouais. Sur 3 continents, parce que du coup, Brut
est
sur plusieurs continent. On n'a pas rappelé ce que c'était Brut, je vais me faire taper sur les doigts. Bah, oui. Brut, c'est un média social, du coup, qui est en présence sur les réseaux sociaux avant tout, et qui cherche à livrer de l'information fact-check, etc., à toutes les jeunes générations du monde. C'est sa mission, quoi. C'est vraiment être le média référent d'actu en particulier, mais aussi d'entertainment, etc., mais vraiment le média référent des jeunes générations en social. Et les gros marchés, c'est les US, l'Inde et la France. Et donc du coup le créateur programme on l'a monté sur ces trois marchés là et il y a eu un moment où j'avais vraiment des équipes dans les trois marchés. Maintenant j'ai qu'une équipe en France qui irrigue, mais à un moment on était sur les trois marchés.
Et l'Inde c'était un gros marché, enfin du coup c'est vrai que dans le créateur économie en Asie, enfin je regarde un peu tous ces écosystèmes là, c'est l'Inde, l'Indonésie sur la partie social commerce et après il y a tout le reste de l'Asie de l'Est. Du coup, est-ce que vous c'était choisi d'aller en Inde ou en fait il y a eu énormément d'opportunités qui sont venues de là et comment ça s'est passé ?
En fait, l'Inde est un marché qui a été développé d'abord par Brut en tant que média. Okay. C'est le deuxième marché de Brut média.
Ok.
Et ça depuis très longtemps. Okay. Ouais, depuis ça doit faire, ça doit faire 5 ans. Ça fait 7 ans que Brut existe. On a fêté notre anniversaire. Je crois que ça fait 5 ans qu'on est en Inde. Donc c'est un très très gros marché en termes d'utilisateurs. L'opportunité créateur, elle existe, elle est présente. En revanche, du coup, on va peut-être rentrer dans le business model qu'on avait, qu'on avait dans ce qui me concerne sur le créateur programme. Mais ça s'est avéré quand même compliqué de faire vivre et de scaler un créateur programme tel que nous, on l'avait imaginé en tout cas en Inde, parce qu'on reposait, nous, sur la monétisation des contenus en programmatique. Et en fait, sur ce business-là, les CPM sont extrêmement bas en Inde, à un point où tu peux pas en fait avoir un business, même si tu domestiques tout, etc., que t'as aucun coût en France, c'est très très difficile d'atteindre la rentabilité parce que en fait tu monétises du contenu sur des micro centimes et donc en fait il faut faire vraiment des millions et des millions et des millions de vues et malgré tout c'est quand même aussi un marché qui est assez concurrentiel, donc même s'il y a beaucoup de gens qui regardent, il faut vraiment aller taper 100 millions de vues par vidéo pour avoir des vidéos qui sont rentables, tu vois, sur tes comptes. Ouais. Donc ça n'a pas fonctionné pour ça, mais par contre c'est un marché énorme pour Brut aujourd'hui. L'Inde c'est un marché très très porteur, autant en audience qu'en business. Ouais.
Ok, et du coup, je reviens juste un peu avant, tu disais que donc, vous avez développé donc, une stack, une super stack, une belle stack technique pour les super créateurs. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'outils en fait ? Parce que qu'est-ce que c'est pour toi un outil vraiment pour créateurs ?
En fait, si tu veux, je dirais que le principal atout qu'on avait vraiment au moment où on a commencé, et finalement, il n'a pas beaucoup changé cet atout, c'est que Brut, c'est un CMS, en fait. C'est un, okay. un système de content management. Alors, il y a des humains dedans, il y a différentes technos dedans. Tu vois, on fait appel à différents outils. C'est pas comme le CMS de Snap ou le CMS de Facebook. Tu as un seul programme. Mais du coup, cette stack technique, quand même, c'est un CMS. Et ça veut dire que tu peux produire beaucoup de choses pour beaucoup de réseaux très facilement. Donc là, peut-être, avant de te dire les outils en pratique, le service qu'on livrait, concrètement, c'était un service de syndication. Okay. Donc c'était de dire, il y a des créateurs qui sont affinitaires avec Brut, on veut créer un écosystème dans lequel on leur livre du service, mais aussi dans lequel ils interagissent avec des marques partenaires, ils viennent faire du contenu avec nous, etc. Donc on va commencer à prendre et à recruter, en fait, des créateurs partenaires, et la porte d'entrée, ça va être la syndication. Ça veut dire qu'on va prendre leur contenu, souvent c'est des youtubeurs, en vrai, il y a quelques okay. tiktokers, mais souvent c'est des youtubeurs. TikTok ban en Inde, donc de toute façon, il n'y avait que des youtubeurs en Inde. On va prendre leur YouTube, on va le snacker, on va le verticaliser, on va le sous-titrer, etc. Et avec ce qu'on sait des plateformes telles que Snap, Insta, Facebook, mais surtout Facebook et Snap à l'époque, parce que c'était les seuls qui monétisaient vraiment, on va pousser ce contenu sur ces autres plateformes et on va générer du revenu incrémental en partant en fait d'un contenu qui existe déjà. Donc le créateur, il fait zéro effort, il récupère du revenu incrémental et nous, on se rémunère sur une base de rev share programmatique. Donc vraiment un modèle de syndication pur et dur. Et donc, dans le cas de cette syndication, il y a plein de technos qu'on a pu utiliser. Il y a des technos qui permettent de spotter, par exemple, les vidéos les plus à potentiel, le plus viral dans ta librairie YouTube. Donc, tu vois, on va aller regarder ta librairie YouTube et on va dire, OK, bah, cette vidéo sur Facebook, elle a un potentiel énorme. Voilà son score. Sur Snap, elle a un très gros potentiel. Voilà son score. Donc, des vidéos un peu prédictives, enfin, des techs un peu prédictives. Mais le plus gros, en réalité, c'est que moi, dans mon équipe, j'ai des personnes qui sont des content stratégistes. Et donc, c'est le métier, en fait, de retravailler tout ça avec de la post-prod. Il y a une partie qui est automatisée, mais il y a aussi une partie qui est humaine. Et donc, ces équipes-là, on leur a mis à disposition des technos d'analytics, en fait, purement et simplement de reporting, mais très granulaire. Donc, les drop-off rates sur Snap, le temps passé sur Facebook, tout ça, en fait, avec beaucoup d'insights pour nourrir en permanence la content stratégie pour chaque créateur. Donc tel créateur, la semaine dernière, tu as un drop-off rate de combien en fait, sur telle thématique sur Snap, il n'y a aucune vidéo qui dépasse les je sais pas moi, 40% de drop-off rate, donc ça ne va pas, on adapte, etc., etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on a construit le créateur programme. C'est vraiment un mélange d'insights qui venaient de nos stacks techniques et de management, en fait, de process avec des gens, de ritualisation, etc., pour améliorer, mais avec des humains, quoi, ouais, les lignes édito des créateurs qu'on accompagnait.
Ok, et du coup, il y a un gros travail, enfin, il y a un gros échange entre créateurs et équipe, enfin, équipe brute. Du coup, tu parlais directement avec les créateurs ou bien tu parlais avec leurs managers, leurs agents, ou comment ça se passait?
Il y a eu de tout. Il y a eu de tout. Les premiers, c'était le mieux. Hein. Maintenant, c'est les meilleurs souvenirs, mais ça fait 3 ans maintenant.
Vas-y, comment s'est passé, en fait, tout ça, les premiers
créateurs?
Vous avez trouvé comment s'est passé?
Je sais pas si je peux dire les noms des premiers.
La relation que vous aviez.
Ouais. En fait, c'est des coups de téléphone. Quand même, Brut, c'était déjà un média. Enfin, c'était vraiment déjà ce que c'est Brut. C'est juste que maintenant, c'est encore plus monté en puissance. Mais c'était du coup un média avec beaucoup de contacts. On avait beaucoup de contacts. Donc, on a eu pas mal de contacts comme ça. Mais tu te retrouves à une table et t'es en train d'expliquer ce que tu fais. Et en fait, personne ne l'a jamais fait. Sauf Jelly, quand même, qui était déjà un peu là-dedans. Mais personne n'est jamais allé voir un créateur pour lui proposer ça. Tu lui dis, en fait, on va faire du business en plus, ça va générer aucun effort, mais par ailleurs, il y a tout cet écosystème dans lequel on va te faire rentrer, etc. Et donc, au début, il y a eu toutes les réactions, en fait. Il y a eu du scepticisme, il y a eu de l'engouement direct. Il y a des gens qui nous ont fait confiance parce qu'ils faisaient confiance à Brut. Ça, c'était vraiment cool.
Ah, l'image de marque est forte, quoi.
Ouais, très forte. Ouais. Mais Brut, il faut se dire, c'est un média français. Qui est géré quand même depuis la France, le siège est en France, avec une équipe majoritairement française. Et moi, je suis français. Et on me demande direct de monter un créateur programme et un proof of concept sur 3 marchés pour comprendre et tester les 3 marchés. Et du coup, sachant que le plus gros, évidemment, c'était les États-Unis. Et donc ça, c'est vrai que c'est des souvenirs de ouf d'arriver, débarquer vraiment. Ça faisait 2 mois que j'étais sur le projet. 3 mois avant, j'étais business analyst. Et 2 mois plus tard, je me retrouve à LA... dans une Toyota Yaris et Clatos, à aller démarcher des gars. Tu te retrouves dans un autre monde, quoi. Non, et c'était extraordinaire. Et encore une fois, je suis hyper reconnaissant, moi, de... Enfin, je dis encore une fois, je ne l'ai pas encore dit, mais je suis très, très reconnaissant de la confiance aussi que Brut m'a faite pour aller découvrir tout ça. Parce qu'on a découvert beaucoup, beaucoup d'industries, on a rencontré beaucoup de gens. Mais c'était très marrant d'être les petits Français qui vont parler de syndication à des gens... Mais ça a pris, hein. Aux US, ça a pris. On a atteint, en fait, au plus gros, quand le marché était bien en forme, on était à 50 créateurs aux US. Donc, c'était beaucoup. Et en plus, il y avait des relations très fortes avec des grosses affinités, plein de projets, etc. Après, bah, c'était 2022. Hein. Donc, 2022 a eu lieu. Ouais. Et après, on a pivoté, on a découvert d'autres business qui étaient peut-être plus stables.
Okay.
Mais la grande époque, c'était vraiment il y avait beaucoup de créateurs, quoi. C'était vraiment cool.
Et du coup, quand t'étais aux États-Unis, genre t'étais allé voir les t'étais parti voir genre des médias.
Bah, Statue de la Liberté. Ouais, je suis allé voir.
Ouais. Du coup, t'étais où? T'étais côte ouest.
Ouais, alors côte ouest. C'est marrant, c'était encore le Covid, mais la fin.
Ah, ok.
Et du coup, pour rentrer aux US, t'étais obligé de passer 2 semaines en dehors de l'espace Schengen parce que Trump il avait ban. Je fais du bruit avec mes chaussures. Trump il avait ban les citoyens de l'espace Schengen. Du coup, j'avais fait 2 semaines à Mexico dans les puisqu'on a aussi des bureaux. Enfin, on avait des bureaux à Mexico. Ouais. Donc j'avais fait 2 semaines dans les bureaux à Mexico, c'était énorme. Encore une fois, deux mois avant, j'étais vraiment en train de faire des analyses sur Excel.
Ça a dû être fou, le changement de vie, quoi, je veux dire. C'est quand même dingue, t'as dû te bousculer un peu dans...
Vraiment la promesse remplie de la vie en startup, quoi. Vraiment, c'est du fait, fais-le. Ça, c'est vraiment la mentalité de mon patron. Mm-hmm. Et c'est un truc qui a quand même beaucoup contribué au succès de Brut, c'est vas-y, on le fait. Et Guillaume, objectivement, est vraiment comme ça. Et donc, du coup, c'est comme ça que je suis arrivé, du coup, depuis le Mexique, à LA. Je suis rentré aux US à LA, et ensuite, j'ai fait New York. Donc, j'ai fait les deux côtes.
Okay.
Et je suis revenu après. J'ai fait plusieurs voyages, du coup, pour rencontrer des partenaires. Après, des agences, parce qu'on a une des deals assez structurants avec des agences aussi là-bas. Donc,
Tu travailles avec les grandes agences, type CIA, les trucs comme ça. CIA, ces calibres-là.
Ouais, c'est CIA, le partenaire. On a travaillé avec CIA. On a eu un deal vraiment de lancement pendant presque un an.
Ok, c'est fou, quoi. Et du coup, en plus, c'est intéressant, c'est un petit point, il y a un petit pivot par l'écosystème, hein, 2022, ça a été une année assez dure pour l'économie des créateurs. Du coup, aujourd'hui, c'est quoi la vision de Brut, là, pour la Creator Economy, son ambition sur la partie économie des créateurs, sur le long terme, un peu. Est-ce que ça a changé, ou alors c'est toujours la même vision, mais avec un... On va dire une méthode différente, donc pivot à ce niveau-là. Comment ça se passe?
Je pense que la vision mission, elle n'a pas changé. C'est-à-dire que Brut continue de vouloir être un écosystème qui fait vivre et grandir des créateurs. Parce qu'on continue de se considérer comme un super créateur, c'est-à-dire super en termes de personnes. Tu vois, il y a 350 personnes chez Brut, c'est une grosse boîte. On fait beaucoup, beaucoup de vues, ça fait 1,5 milliard de vues par mois, etc. Donc, on a les moyens de faire venir et de faire coexister ensemble des créateurs qui sont pertinents chez nous. Je pense qu'on s'est recentré sur l'aspect créa. C'est-à-dire que vraiment, il y a une affinité maintenant entre tous les créateurs qui interviennent autour et dans le média. Donc, je pense que c'est vraiment ça, c'est se concentrer sur ce que livre Brut aux gens. Vraiment.
Okay.
Je pense que c'est sur ça qu'on s'est concentré en termes d'efforts. Et après, il y a aussi la rationalisation de l'investissement en temps et les autres types d'investissements qu'on a fait sur la Creator Economy, qui nous ont quand même donné une légitimité, une expertise, etc. Et tout ça, ça nous permet maintenant de faire ce que je te disais tout à l'heure avant qu'on commence, qui est de livrer du service à des structures et à des organisations qui sont des publishers. C'est pour ça que maintenant, ma BU s'appelle Brut Public, qui sont des publishers, qui ont des visages, qui ont des incarnants, mais qui c'est pas des créateurs, c'est des incarnants. Donc télé, radio, ça peut être des visages sportifs, effectivement, mais c'est pas des personnes qui ont des communautés sur les réseaux sociaux et qui savent animer un feed social. Et du coup, c'est sur ça qu'on peut les aider, parce qu'on a un pied dans le média, donc on sait très bien comment travailler avec des médias.
Ouais.
On a beaucoup de partenaires, mais on a quand même un très gros partenaire qui est France Télévisions sur la partie média uniquement. Donc on sait travailler avec des médias, mais on sait aussi faire du créateur. Donc on créateurise un peu des personnalités qui sont pas encore là-dedans.
Ok, donc j'imagine en plus ça va être pas du tout la même approche. Genre, Parce que enfin, entre le créateur, on va dire le cliché du mec 20 ans, LA, qui en fait, ouais, a commencé comme ça, qui a genre 500K sur son YouTube, versus, on va dire, le professionnel qui a une. Genre, je prends un cliché, hein, genre Etchebest, tu vois, genre un profil comme ça, genre. Et encore lui, ça va, tu vois, il arrive à, entre guillemets, à capter, ouais, une bonne image, tu vois. Mais c'est genre, ce genre, toi, ce genre de profil-là, tu vois. Et en fait, c'est, ouais, pas du tout la même approche, donc j'imagine que t'as les approcher différemment. Est-ce que peut-être le rapport, il est pas le même, enfin, tu vois.
Ouais, ça a rien à voir. Surtout que, en fait, nous, le pivot, c'est un pivot. Enfin, c'est toujours un peu compliqué avec la créateur économie, parce que est-ce que tu considères les créateurs individuels comme des clients, du coup, t'es B2C quand tu travailles, mmh, avec eux. En l'occurrence, pour moi, franchement, oui, même si c'est un peu chelou, mais objectivement, oui, parce que le pivot qu'on a fait, c'est un pivot B2B. Maintenant, on travaille toujours avec des créateurs, on a toujours un roster de créateurs dans le programme, mais on a maintenant des clients qui sont des gros orgas qu'on facture, tu vois, et c'est un truc qui est plus stable, etc.
Ouais,
et on est rentré par l'organisation, donc c'est plutôt top-bottom, on est présenté aux créateurs, enfin au visage en l'occurrence, comme une solution qui va les aider à se digitaliser, mais qui va aussi servir les intérêts de leur
organisation. Okay.
Voilà. Et du coup, et puis après, effectivement, l'approche est complètement différente. Mais franchement, moi, tous les jours, je suis dans mon taf, je suis surpris de ouf, et dans le bon sens du terme,
ouais,
par en fait, la valeur des compétences des gens avec qui je travaille, des talents avec qui je travaille pour le web. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas des gens qui vont savoir comment prendre une vidéo de manière hyper fluide, etc., qui vont savoir comment ne pas paraître cringe, etc. Enfin, sans dire qu'ils l'ont été, mais ouais, c'est forcément, ce n'est pas du tout ces mêmes codes. Mais ouais, par contre, c'est des gens qui sont... Enfin, si tu parles d'info, par exemple, mais aussi d'entertainment, mais si on se concentre sur l'info, c'est des gens qui sont capables de livrer une info qui est parfaitement bien calibrée, qui sait exactement l'audience à laquelle elle s'adresse, qui est fact-checked, qui est... Enfin, en fait, c'est vraiment... C'est du journaliste de très très haut niveau, et du coup à partir du moment où tu mets juste un petit peu les formes pour packager ça bien pour des plateformes qui n'ont pas du tout l'habitude de ça, déjà tu fais des cartons d'audience. En vrai, on a des cartons d'audience, enfin il y a des trucs sur malheureusement je peux pas
ouais.
C'est le problème quand t'es en B2B, c'est que souvent tu peux pas parler des...
Est-ce que t'as un truc peut-être du passé peut-être qui est public maintenant?
Pas sur
ok, d'accord. Ok, d'accord.
Des succès, ouais, des gros succès avec des créateurs individuels, on en a eu plein, mais c'est surtout aux US.
Ouais.
Mais là en l'occurrence, les cartons dont je parle, mais en fait c'est juste plus tu peux t'en rendre compte. Mais tu vois, même Etchebest, enfin c'est un bon exemple. Ouais. Nous on travaille pas avec lui, mais... Et c'est pas un visage médiatique, c'est un chef qui a une présence médiatique. Ouais. Mais tu vois, franchement, ce qu'il fait, ben ouais, c'est sûr qu'il a pas tous les codes, etc. Mais enfin, tu vois, ça cartonne. Et puis, c'est hyper intéressant. C'est vraiment hyper intéressant parce qu'en fait, il a, je sais pas combien d'années de... Et ça a une valeur, je pense, qui est en train d'être découverte. Donc en fait, quand même, les Gen X et tout, je pense qu'ils ont un truc à apporter dans la créateur économie maintenant.
Ouais, donc on peut pas se permettre de dire que créateur connu, déjà c'est que Gen Z millennial, tu vois, genre faut entre guillemets respecter un peu l'expérience des anciens.
Bah non, mais surtout que là, surtout non, moi je trouve que vraiment pas, je trouve qu'au contraire tu y a de tout, et c'est ça qui est trop cool, c'est que quand t'apprends à des gens qui savent faire très très bien d'autres trucs qui sont totalement fondamentaux, comme je sais pas, créer de l'information de qualité, ça prend du temps de faire ça, ça prend une carrière en fait de savoir faire ça. Ça va bien le dire, ça va bien adresser. Enfin, une interview politique, franchement, je ne veux pas me mouiller trop. Mais une interview politique, ça demande beaucoup d'expérience de bien gérer ça. Et donc, quand tu as ça, quelqu'un qui sait faire ça, et que tu l'aides en lui donnant les bons outils, la bonne boîte à outils pour servir ça et packager ça pour du TikTok, de l'Insta, du YouTube et tout, ça cartonne.
Et par curiosité, la delivery, elle est sur le compte personnel de la ouais, personne ou ouais, sur le compte de la boîte?
Ouais.
Ah, sur le compte perso?
Ouais.
Ok, donc en plus, ouais, ça sert aussi le personal branding,
bah ouais,
par définition, en plus, ouais, la boîte, parce que du coup, elle est affiliée à la boîte où il est.
Ouais.
Non, c'est excellent. Et du coup, juste pour rebondir plus sur un petit sujet, parce qu'on a beaucoup parlé avec Alex, c'est le côté créateur versus influenceur. En plus, tu l'as souligné un petit peu, tu vois, quand tu disais que bah, du coup, bah, t'as les profils experts, on va dire, tu vois, professionnels versus les créateurs. Pour toi, comment tu vois? Est-ce que pour toi, il y a une différence? Est-ce que pour toi, et quel type de personne vous adressez? Est-ce que vous avez une vision plus influence ou une vision plus créateur? Parce que tu vois, créateur, c'est plus le côté communauté, tu vois, ou créer un business autour de quelque chose.
Ouais.
Voilà, quelle est un peu votre position, enfin ta position un peu là-dessus?
J'adore ta question parce que j'ai vraiment passé des... ouais, ça a animé beaucoup de mes conversations. Un peu moins maintenant, mais à l'époque, pas mal de conversations. Pour moi, il y a une différence fondamentale. Okay. Mais j'ai un peu bougé sur la deuxième catégorie des influenceurs.
Okay.
Mais pour moi, quand même, les créateurs, c'est des fabricants. Et donc, en l'occurrence, là, on parle de créateurs vidéo. Et donc, c'est des gens qui fabriquent de la vidéo. Mais un créateur, typiquement, si je prends Squeezie, c'est une personne, ça fait depuis qu'il a 15 ans qu'il fait de la vidéo. Dans sa chambre, d'abord. Et puis, il continue. C'est un fabricant, c'est un mec qui a masterisé la fabrication de contenu pour YouTube. Et avec Théo, son réel. Et donc, c'est une équipe, quoi. Ces deux personnes-là, c'est des fabricants. Et le visage, c'est Lucas. Un influenceur, c'est quelqu'un qui vend sa notoriété, en fait. Qui vend sa notoriété, son pouvoir de prescription. Mais son pouvoir de prescription, il ne l'a pas acquis en fabriquant. Il l'a acquis en postant des contenus qui demandaient très peu d'efforts de fabrication. Voilà. Mais par contre, je trouve... au début, j'étais assez sceptique, moi, des influenceurs. On travaillait vraiment... Parce que, en fait, quand on faisait de la syndication, on syndiquait du contenu vidéo. Donc, on devait travailler avec des gens qui avaient du contenu vidéo. Donc, par défaut, on a exclu les influenceurs. Mais en fait, maintenant, je trouve que la distinction, je continue de la faire. Mais je trouve que les deux peuvent... les deux sont intéressants sur Internet et sur les réseaux. Les deux peuvent avoir des... Et surtout, en fait, quand tu parles juste en termes business, l'influence et, pour le coup, les influenceurs... Et de toute taille, mais y compris les micro-influenceurs, c'est devenu un truc, je pense, central dans toutes les agences de marketing du monde, tu vois. Donc, c'est aussi un business qui... Enfin, tu vois, il y a un truc qui est reliable, en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui savent convertir, qui savent engager, qui savent... Donc, ils savent quand même faire quelque chose. Parce que moi, avant, je n'avais pas trop cette vision-là. Donc, voilà. Mais je fais bien la distinction. Pour moi, c'est deux types d'acteurs qui sont présents sur le web. Ils font des choses qui sont très différentes. Il y en a qui racontent des histoires et qui fabriquent des vidéos. Il y en a d'autres qui, encore une fois, mettent en scène un peu leur vie sans fabriquer forcément beaucoup et qui ensuite monétisent leur notoriété.
Et du coup, vous soulignez un peu par le passé, aujourd'hui, avec les marques avec lesquelles vous travaillez, ces subtilités entre les deux. Parce que je pense qu'en tant que marque, en fait, je pense que tu veux avant tout avoir quelqu'un qui... En fait, tu veux deux choses, je pense. Que avoir un maximum de traction, on va dire, d'attention pour ta marque. Tu veux pas non plus avoir un risque sur ta marque. On va prendre quelqu'un, en fait, qui va la casser parce qu'il a pas la bonne image. Ou...
Ouais.
Et en fait, c'est compliqué parce que avant, on va dire, on prenait les influenceurs. Après les influenceurs, on a vu un peu en mode, tu sais, c'était la réalité aussi qui a joué.
Ouais.
Ils ont pris un coup dans le dos quand même. Et aujourd'hui, en fait, tu vois, il y a ce que disait Alex, c'est que, en gros, les influenceurs se rebrandent créateurs et du coup, c'est un peu le flou, tu vois, je pense, pour une marque, en fait. Quand tu connais pas trop de sujets, t'es un peu dans le flou. Donc, vous, comment vous faites, même toi, hein, tu leur expliques vraiment la subtilité des deux, ou au contraire, pour eux, c'est pareil, donc il n'y a pas vraiment de sujet, et les deux délivrent la même chose.
Alors, moi, je dirais que ça dépend, en fait, de à quel niveau du funnel tu travailles avec la marque.
Ok.
Brut, le plus gros pourvoyeur de business pour nous, c'est le branding content. Et donc, le branding content, ouais, c'est du contenu qu'on fabrique et qu'on héberge pour les marques. Donc, typiquement, je sais pas, on va faire une campagne avec Spotify. Enfin, d'ailleurs, Spotify, c'est plus qu'une campagne. Toutes les semaines, on va sortir un contenu sur le feed de Brut, okay, sur Insta, sur TikTok et tout, qui va être un contenu musical. Avec un logo Spotify, et c'est vraiment c'est de la publicité, quoi. C'est comme ça qu'on se... Parce que Brut, c'est un média gratuit et indépendant, donc c'est comme ça qu'on se finance, du coup. C'est en tout cas la plus grosse source de business. Et ça, du coup, en fait, on a essayé plusieurs trucs, mais là, maintenant, ce qui est vraiment consolidé, là où c'est mature, l'offre, c'est le haut de funnel. Donc c'est la notoriété, c'est... Voilà, c'est l'image de marque. Brut, c'est une marque qui est très, très... comment dire, qui est très populaire, qui a un pouvoir de prescription qui est important. Donc, nous, on vient nous voir. C'est souvent des marques assez puissantes qui viennent nous voir pour travailler et profiter de ce pouvoir de prescription et faire, du coup, de la notoriété du haut de funnel. Après, on a une nouvelle offre maintenant qui s'appelle Brut Shop. Et cette offre, elle travaille plutôt sur le bas de funnel. Donc, on fait du live streaming shopping, on fait des lives, etc.
Okay.
Et avec des marques. Et ça, pour le coup, tu as besoin de gens qui sont capables de convertir. Et la conversion, c'est pas du tout pareil que de raconter une histoire. Donc, en fait, quand tu fais de la notoriété, tu as besoin de créateurs, je trouve. Tu peux avoir des influenceurs, hein, mais c'est cool d'avoir des créateurs parce qu'ils apportent quelque chose, souvent une patte, etc. Donc, on fait beaucoup ça. Mais en fait aussi, quand on le fait pas, Brut, c'est le créateur, tu vois, un peu. Et après, sur le bas de tunnel, par contre, on fait venir des créateurs quand on peut, ou quand ça fait sens, ou des influenceurs quand on peut et quand ça fait sens. Okay. Et là, pour le coup, ça, c'est donc, tu vois, c'est plus comme ça en fait qu'on fait la distinction. Donc, quand on une marque vient nous voir avec un besoin, je dirais que c'est comme ça qu'on fait la distinction et qu'on aiguille en fait vers un type ou un autre.
Ok. Et
après, juste un truc,
ouais, vas-y, vas-y.
Il y a quand même une grosse diff, c'est que les créateurs sont quasiment tous influenceurs.
Oui, c'est ça le truc. Ouais.
Squeezie, ben, c'est, si vous voulez, demain il arrête les vidéos, il est influenceur, il est millionnaire jusqu'à la fin de sa vie, tu vois. En tout cas, s'il se démerde bien. Ouais. Léna, je sais pas combien le pourcentage de son revenu qui vient de l'influence et des deals d'influence, mais je pense que c'est considérable. Ça veut pas dire que c'est pas une créatrice de talent, tu vois, mais c'est une créatrice qui sort des vidéos en août, tu vois. Après. Donc elle est créatrice et elle est influenceuse.
Ouais, et je pense que t'as raison dans ce point-là, c'est que je pense que la subtilité dans tout ça, c'est comment tu utilises l'influence en fait, in fine. Est-ce que tu dis en mode je suis juste un panneau publicitaire et en fait c'est limite très pragmatique en fait, tu vois. T'as pas forcément de lien avec ton audience, juste tu leur parles un peu, mais en fait tu balances du contenu et tu fais ton cash, et c'est comme n'importe qui ferait de l'argent en fait. T'es boulanger, tu fais du pain, c'est carré, tu vois.
Ouais.
Mais d'un autre côté, t'as aussi l'autre approche, tu vois. Un peu l'approche Léna, un peu en mode je construis un empire. En fait, pour un créateur, il construit un empire du média, tu vois.
Ouais. D'accord.
Tu vois. Alors que l'autre, en fait, il fait son bis, quoi, tu vois. Et après, si limite s'il veut pivoter de vertical, c'est pas grave.
J'allais dire ça.
On s'en fout, quoi.
C'est beaucoup plus facile d'arrêter d'être influenceur, je pense, que d'arrêter d'être créateur. Je pense que quand t'as été créateur pendant aussi longtemps que ces personnes-là, tu vois, c'est ton métier, quoi. C'est ton expertise, c'est ta vie, c'est. Tu vois.
En plus, c'est lié un peu à toi, en fait, à ton. Enfin, limite à ton soin, en fait. Parce que, tu vois, Léna, enfin, je veux dire, elle a fait. Enfin, je veux pas parler à sa place, tu vois, mais elle a fait énormément d'années sur son sujet. Pour dire, vas-y, je change. C'est bizarre, tu vois. C'est lié quand même à ça. C'est comme les sportifs, en fait, tu vois, qui se reconvertissent, en fait. C'est super dur pour eux, tu vois.
Exactement.
C'est toujours eu. Alors, par exemple, ils se reconvertissent dans le consulting sportif à la télé, mais en fait, ça reste toujours dans le même domaine, tu vois.
Ouais.
C'est toujours lié à ce que tu fais. Et du coup, tu nous as un peu expliqué la partie syndication, ce que vous faites un peu aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux expliquer aussi pour les auditeurs qui ne savent pas un peu ce que c'est, comment ça se passe du début à la fin? Pas forcément dans les détails ultra confidentiels, c'est pas le but, mais vraiment pour comprendre un peu, tu vois, et un peu comment vous pilotez ça, comment vous suivez un peu la performance de ça.
Alors la syndication, c'est très simple, en fait. C'est en gros quand t'es créateur, souvent t'es spécialiste d'une seule plateforme, et en réalité il y a deux on peut dire qu'il y a trois plateformes. Il y a Instagram, TikTok et YouTube pour les créateurs. Il y a quand même des créateurs qui, tu vois, tout à l'heure tu vas me poser une question parce que tu m'as envoyé des questions à la trame à l'avance sur quel créateur je voudrais être. Moi, le créateur que je voudrais être, typiquement, c'est un créateur Insta. C'est un mec qui fait des reels sur Insta. Il y a des créateurs qui sont des créateurs TikTok, qui leur grosse audience est sur TikTok, c'est vraiment le format qu'ils maîtrisent. Et puis il y a des créateurs qui maîtrisent YouTube. Et donc quand tu maîtrises cette plateforme, on va prendre YouTube, tu as une librairie sur cette plateforme. Et donc nous, ce qu'on fait avec la syndication, c'est qu'on va piocher dans cette librairie des contenus 16-9, donc des contenus horizontaux d'une trentaine de minutes chacun, et on va adapter ces contenus pour d'autres plateformes, sur d'autres codes, sur d'autres audiences, etc., qui monétisent en plus différemment. Et donc, dans toutes les étapes de ce que je viens de dire, il y a de la tech et une expertise. Donc déjà, on va éditer le contenu, on va le verticaliser, donc ça veut dire qu'on va le découper, on va le sous-titrer, parce que YouTube, c'est pas une plateforme où les gens regardent sans le son, mais par contre, Facebook, c'est de l'autoplay, et c'est beaucoup sans le son, Insta pareil, et Snap pareil. Donc on va sous-titrer du coup les contenus, on va créer des pages potentiellement, on va les faire grossir, on va faire des campagnes de paid, etc., avec tout ça, avec de la tech du coup pour nourrir, pour avoir des insights qui nourrissent à chaque fois les médias traders, les gens qui font la stratégie d'acquisition d'audience. Et puis on va monétiser ton contenu. Et quand on va monétiser le contenu, là on va commencer à traquer des choses vraiment précises sur à la fois les volumes, les métriques de volume, les minutes vues en l'occurrence sur Facebook, mais en gros les vues, peu importe comment on regarde ça, les vues monétisées, donc ça veut dire du coup à quel point tu as du reach, tu touches des gens, mais aussi à quel point les gens restent longtemps, parce que tu monétises des vues à partir d'une minute sur les réseaux. Donc, il faut que les gens non seulement soient nombreux, mais en plus restent. Et après, tu as, et c'est très important, tu as la qualité en fait, de la vue en termes de rémunération, de monétisation. Et ça, toutes les vues ne se valent pas, tous les contenus ne se valent pas. Et du coup, selon les thématiques, selon les angles, selon la, le créateur, etc., selon l'audience en fait, qui va être touchée, et selon les marques qui vont vouloir publier sur ces audiences, eh ben, le CPM il va être complètement différent. CPM, ça veut dire coût par vue, en fait. Enfin, c'est le coût par 1000 vues.
Ok. Et juste un petit détail là-dessus, du coup, avant de te laisser poursuivre. Sur la partie du CPM, ça, c'est quoi un peu la différence? C'est-à-dire, c'est, plus on est niche, plus c'est cher, ou, enfin, plus c'est le coût est élevé, ou alors au contraire, il faut, où il y a des secteurs qui sont, entre guillemets, incontestables, ou comment ça se passe?
Ouais, il y a des secteurs incontestables, notamment les secteurs qui sont vraiment très proches. Tu vois, si t'as un créateur qui fait des reviews, par exemple, d'objets tech, ouais. Ça, c'est des secteurs qui, avec des gros CPM, parce qu'en fait, c'est, tu cibles des audiences qui regardent ça, tu sais que tu cibles des audiences qui achètent des objets, tu vois, des tech devices ou des trucs comme ça. Donc typiquement, il y a des niches qui fonctionnent. Après, moi, j'ai tout vu. Franchement, je te le dis, j'ai tout vu.
Okay.
Et surtout, c'est un, c'est, enfin, ça dépend des plateformes, mais de manière générale, la monétisation du contenu sur Internet, c'est un business qui est extrêmement contingent, qui bouge très très vite et qui est très sensible à, au reste de l'économie. Donc, il s'est passé quand même un truc en 2022. On est vite passé à autre chose, mais enfin, il y a quand même eu un bear market, il y a eu un petit coup de stress quand même à la bourse en avril, et après ça, entre ça et le moment, il y a eu l'été, après on a remonté les taux en septembre. En fait, les publishers marketing, ils ont complètement fermé le robinet, tu vois. Donc tout ce qui est ad spend, en plus il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux, c'est la fin du cookie, en Europe c'est la RGPD, enfin du coup il y a en fait tout un business qui est en train de se reconstruire. Et donc ça a beaucoup impacté les CPM. Mais cross-industrie, hein, tout le monde a été impacté. Du coup, c'est vrai que ce business-là, il a forcément été impacté par ça. Ça joue aussi sur le pivot, tu vois. C'est tout un ensemble, en fait.
Du coup, je vais te laisser continuer, parce que je crois que j'étais interrompu sur la partie CPM. Donc, en gros, tu en étais à analyser un peu la partie perf. Et,
ah ouais, les perf, ouais. Bah non, mais en fait, j'allais finir, c'est... Je t'ai dit, donc il y a la partie quanti,
ouais.
Les vues, les volumes de vues, etc. Et puis il y a la partie, entre guillemets, quali.
Ok, d'accord.
Et là, c'est vraiment purement monétisation. C'est quoi son CPM? C'est quoi son RPM? Parce qu'en fait, CPM, c'est combien va être le bid, en gros, sur ce créateur, sur cet inventaire-là. Mais après, tu as le RPM. Et le RPM, ça dépend évidemment du CPM, mais ça dépend aussi... donc le RPM, c'est revenu ou permis. Pardon, je parle vraiment comme un mec de startup qui pense que tout le monde comprend. donc le RPM, c'est ça dépend aussi de à quel point tu as réussi à vendre ton inventaire, en fait, le remplissage, le taux de remplissage. Et donc ça dépend de la plateforme, ça dépend aussi de ta niche, ça dépend de plein de trucs. Et donc ça, franchement, je le dis sans rougir, ça a pris 3 ans en fait de commencer à maîtriser vraiment avec une stack technique ces outils-là. Et maintenant, on est mûr, on est mature. Mais ça prend beaucoup de temps, et en plus, c'est très contingent, et c'est third party. Ça veut dire que c'est pas first party, tu dépends toujours du système de quelqu'un d'autre, d'une autre plateforme. Donc si Meta demain change sa plateforme, et ils l'ont fait plusieurs fois, bah faut t'adapter, faut changer, etc. Si le marché change, que d'un coup il n'y a plus de cookies, mais même des trucs encore plus importants, que tu peux plus géolocaliser les contenus parce que c'est interdit par la Commission européenne, par exemple, ton business, il peut changer complètement, en fait. Donc, tous ces business, en fait, qui livrent du service à des créateurs en se rémunérant sur le revenu incrémental qu'ils vont générer avec eux sur Internet, ils sont tous très contingents. Ça peut bouger très, très vite.
C'est une des raisons, peut-être, pour lesquelles vous avez pivoté un peu le...
100 000%.
Parce que c'était trop risqué, trop compliqué.
En fait, c'était... Le truc, c'est que pareil, en plus, t'es sur du média. Tu fais du média, tu développes du produit, tu manages du produit. Mais quand tu fais du média, c'est des gens quand même. Tu vois, il y a de la tech, il y a de l'automatisation, etc. Et là, maintenant, en plus, depuis un an, c'est hallucinant. En média, en vidéo, en images et tout ce qui arrive avec l'IA, c'est un truc de ouf. Mais ça fait un an. Moi, ça fait 3 ans que je fais ça. Donc, avant, il y a un an, tu étais obligé de passer par de l'humain, par des équipes hyper bien organisées, avec beaucoup d'automation dans les allers-retours, etc. Mais quand même, tu as des gens qui remontent les vidéos et des monteurs qui vraiment fabriquent, en fait, c'est-à-dire découpent.
Ouais, c'est à la main, quoi. C'est vraiment c'est l'esprit humain qui fait le taf, quoi. C'est pas la machine.
Il n'y a aucune boîte qui le fait automatiquement. En tout cas, il n'y avait aucune boîte jusqu'à... Je pense que maintenant, il y a des gens qui essayent. Mais à l'époque, c'était vraiment impossible. Et donc, et du coup, ça, c'est beaucoup de coûts. C'est des coûts fixes en plus. C'est pas des coûts relatifs, tu vois. Tu peux pas. T'es obligé quand même de surtout quand. Enfin, c'est une très bonne chose, mais quand t'es en France, que t'as une équipe en France, t'es obligé de savoir combien tu vas gagner le mois prochain. Tu
vois, tu peux pas, en fait. Oui, c'est pas.
Et donc, on arrivait à un moment où, bah, franchement, c'était un, sans dévoiler de secret de fabrication, c'était un carton énorme. Parce que c'était un très, très bon business, je pense. Mais 2022 est arrivé et je pense qu'on arrive quand même à la fin d'un monde sur les cookies et du coup sur la monétisation du contenu en ligne. Et tu vois que TikTok, tu vois, ils ont ouvert soi-disant la monétisation, mais c'est toujours très, très compliqué de monétiser du contenu sur TikTok. C'est très inégal et tout. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc, je pense que, voilà, on s'est rendu compte de ça, nous, l'année dernière. Et du coup, ça a fait partie du pivot. Maintenant, on a toujours des créateurs et ça continue de générer de l'argent. Mais c'est sûr que quand tu as une partie de ton business et de ton PNL qui est remplie par des factures de clients qui sont des grosses boîtes, tu sais qu'elles vont payer, t'es plus dans le même... c'est plus le même endroit, en fait.
C'est, ouais, déjà, je pense même pour vous, en termes de... D'approche sales, en fait, c'est plus pareil, quoi. C'est, tu vois, on va dire, tu passes du one-to-one à une version un peu B2B.
Alors, en plus, ça.
L'approche B2B corpo, tu vois, limite, tu vois, où tu dois un peu les convaincre avec une expertise créateur qui les rassure, quoi, tu vois. Parce que ça va être archi chaud. Et du coup, ça, vous le déployez que en France ou c'est aussi aux États-Unis? Vous parlez un peu avec des corpos. Enfin, vous avez une ambition, du coup, peut-être d'aller dans d'autres zones ou.
Ouais, l'ambition, elle est grave présente. Okay. Après, là, ce qu'on essaie de faire, c'est... ça fait pas si longtemps qu'on fait ça. Ouais. Et on commence à avoir des beaux succès, mais ça demande... Pour le coup, là, t'es sur du tailor-made. Donc, c'est vraiment... c'est boutique. Et donc, il faut servir... Enfin, il faut livrer un service de très, très bonne qualité. Moi, la stack technique, tous les produits qu'on a développés, etc., ils me servent tous les jours. Ils servent tous les jours à mon équipe, tu vois. Mais ça n'empêche pas que c'est des humains qui fabriquent pour d'autres humains. Et donc ça, bah, c'est des coûts importants, etc. Et c'est des risques, en fait. Si tu commences à disperser trop l'équipe et tout, tu prends des risques. Donc moi, ce que je veux, c'est vraiment des très gros succès, là, sur ce qu'on fait, sur le test qu'on fait. Et après, aller voir d'autres gens, en fait, avec ça dans notre mallette, tu vois. En disant, bah, on a fait pour d'autres, voilà ce que ça a donné, voilà à quoi ça ressemble, etc. Parce que c'est dur d'aller convaincre des orgas, tu vois. Tout le monde galère. Tout le monde est concerné, et en particulier les médias, les organisations qui ont des visages, qui ont des incarnants, et puis social media, c'est souvent le parent pauvre en plus quand tu parles avec
c'est ce télés, que j'allais dire, c'est souvent les budgets qui sont cut quand il y a ou ils négocient à balle parce qu'ils savent très bien que ils vont d'abord visiter les médias traditionnels après les ads, enfin la partie display, et après c'est là que t'arrives en mode c'est toujours chaud, quoi. Bah du coup, je vais passer un peu sur les petits quiz que je réserve à tous les intervenants. Je crois que tu l'as un peu dit déjà, et j'aimerais juste que tu t'approfondisses peut-être un petit peu plus. Du coup, si tu étais un créateur, qui tu serais? Alors, pas forcément quelqu'un qui existe, hein, mais ou si tu as vraiment un créateur qui parle. Mais voilà. Sur quelle plateforme, qu'est-ce que tu ferais? T'as dit Instagram, j'ai entendu tout ça. Alors.
Ouais, bah enfin Instagram, ouais. En fait, si j'étais, ça dépend en fait à qui, comment je réponds.
Parce que, vas-y.
Moi, si tu veux. Je pense que tous les gens qui travaillent dans cette industrie, à un moment, ils se posent la question, genre, mais pourquoi en fait, je le fais pas?
C'est comme les investisseurs, pourquoi je serais pas entrepreneur?
Exactement, pourquoi pas moi, en fait? Parce que tu vois bien, tu vois, qu'il y a des trucs qui sont... Il y a des trucs qui fonctionnent, il y a des trucs qui fonctionnent pas, tu commences à maîtriser un peu l'école et tout. Je me suis posé la question. Moi, en fait, être exposé comme ça, j'ai fréquenté quand même... parce que j'en ai pas parlé, mais on a eu des OP à Cannes, j'ai passé vraiment plusieurs jours de suite avec des gros créateurs très exposés, donc en fait, quand tu fais ça, t'as quand même envie d'être successful, donc j'ai vu des gens qui sont successful là-dedans, et j'ai pas envie de ça, moi. Franchement, ça fait peur, hein, en termes d'exposition, à chaque fois que tu prends la parole, c'est un risque et tout. Donc, je dis ça parce que du coup, si j'étais créateur, je vais te dire, genre, je rêverais être juste en termes créa. C'est un créateur Insta qui s'appelle Devon Palmer.
Ok.
Et il est américain et il est très très drôle. Enfin, moi, c'est vraiment ma came d'humour. C'est un gars complètement décalé. Donc, en fait, il fait que des vidéos reel. Après, il est sur TikTok et tout, mais c'est de la syndic pour le coup, tu vois, typiquement. je pourrais pas te l'expliquer. Ok. Va voir Devon Palmer.
Noté.
En tout cas, moi, c'est vraiment ma came. Et après, bah, franchement, si j'étais, si je te parle juste en termes business, du coup, est-ce que le trade-off est positif pour moi? Moi, j'avoue, je trouve que il y a pas besoin d'aller de l'autre côté de l'Atlantique. Franchement, je trouve que Squeezie c'est un succès de ouf. Déjà, la personne, moi, je la connais, c'est un bon gars. C'est vraiment une bonne personne. Il est resté autant que possible, en tout cas, proche de je pense qu'il était au début. Et il a mon âge, tu vois. Donc, okay. C'est, voilà. Et juste le succès, c'est un truc de ouf, quoi. Enfin, franchement, c'est un truc de fou. Déjà, il a créé cet empire dont tu parlais, là. Donc, je trouve ça vraiment impressionnant. Il y a Bump. Et puis maintenant, il y a le GP. Et le GP, c'est vraiment un tueur de records, tu vois, internationaux, que ce soit en live, tu vois, la consommation, les gens qui se déplacent. C'est un Parc des Princes rempli chaque année. Enfin, l'équivalent, tu vois.
Ouais, c'est ouf, ça, ce modèle. C'est un peu l'équivalent F1, je crois que c'est Sign Match Charity, un truc comme ça. Là, c'est le match de foot. Et en fait, je trouve que ça ouvre un excellent pan, parce qu'au final, ça ouvre le fait que... Bah, en fait, pour moi, c'est un peu comme les chanteurs qui deviennent acteurs, tu vois. C'est un peu le même principe, dans le sens où tu trouves quand même un autre... Alors, t'es pas professionnel à fond, mais ton audience a une autre partie de toi, en fait, tu vois. Et en fait, ça passe quand même, tu vois. C'est pas forcément bloquant, tu vois.
Ouais, puis c'est... Enfin, je suis d'accord, mais moi, j'avoue, ce que je trouve, c'est... En fait, c'est que le gars, il y a 10 ans, il se faisait mal parler par Thierry Ardisson à la télé. Et personne n'y croyait, en fait. Et moi, sincèrement, j'en vois tous les jours. Des gens qui sont de l'autre côté maintenant, tu vois.
Ouais.
Qui, à l'époque, étaient du bon côté, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que il a retourné le game, en fait. Franchement, et les créateurs... En fait, je parle de Squeezie parce que pour moi, en France, c'est le symbole de ce qu'ils sont devenus. C'est des entertainers, en fait, avec un pouvoir énorme. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont pas seulement forts sur YouTube. Ils sont capables de faire venir des gens, des gamins qui prennent le train, qui payent leur billet de train, qui tannent leurs parents pour les emmener et tout, qui vont se taper parfois sous la pluie à un événement de Formule 4 parce qu'ils sont fans.
Du gars, ouais.
Le gars, il a un pouvoir de transformation c'est fou. Et donc de ça à MrBeast qui remplit des malls pour acheter ses burgers ou ses tablettes de chocolat. Je suis moins porté évidemment sur le projet parce que c'est uniquement mercantile, alors que le GP il y a un truc sportif et tout, c'est différent. Mais je trouve que moi j'adore cette période pour ça, tu vois. On est dans une époque où il y a quand même des gars qui ont prouvé que le curseur était plus au même endroit sur ce qui est hype, tu vois.
Et ça, c'est ça que je trouve. En fait, c'est un peu genre le... Moi, je pense, ça me fait penser au rap US dans les années 90,
un peu,
tu vois.
Un peu.
Genre, tu sais, les Biggie, les Jay-Z, tu vois. C'est un peu genre, tu construis un empire. En fait, derrière, le rap, en fait, ça se trouve pour faire un empire derrière. Et en fait, c'était trop limité, en fait, au rap, tu vois. Parce qu'en fait, enfin, la musique, tu vois, le rap et tout, tu vois.
Ouais.
En dehors, c'était compliqué de sortir du lot, tu vois. Encore plus quand t'étais un gamer ou un youtubeur et tout. Et en fait, c'est là, en fait, je trouve que la partie du créateur, elle est forte. C'est que du coup, tu vois, tu peux partir d'un média et en fait, derrière, monter, en fait, avoir une vision très grande, l'accomplir, et du coup, par extension, du coup, ne pas avoir honte d'en parler. Parce que je pense que, tu vois, quand t'es youtubeur, au début, t'as du mal à dire, genre, ouais, je veux venir, je vais en aller à là. Les gens vont toujours te regarder bizarre, en fait.
Ils vont dire, mais surtout que c'est des gars, que ce soit, encore une fois, Squeezie, ou... maintenant, on se rend plus trop compte, parce que c'est devenu... les gars, c'est devenu un... C'est un footballeur, limite, en termes de...
Ouais,
mais tu vois... que ce soit Jimmy, MrBeast ou Lucas, c'est quand même des gars, à la base, c'est des massive nerds, tu vois. C'est des mecs dans leur chambre qui font du jeu vidéo. Et maintenant, c'est des gens qui font la traîne. Et donc, sans dire... Enfin, moi, je suis pas en adoration du tout devant eux, mais c'est juste que je trouve que c'est exactement ce que tu dis, en fait. Il y a un truc d'assumer ce qu'ils sont jusqu'au bout. Et en fait, bah, typiquement sur la télé, sa relation avec la télé, c'est moi, j'irai jamais sur la télé. Et en fait, bah, il a amené. Enfin, maintenant, il fait du live. Et il fait des événements en live qui sont plus vus que.
Oui, qu'à la télé, quoi.
Donc, c'est un truc, c'est quand même fou, tu vois. Après,
ouais.
C'est pas tout à fait vrai, encore qu'il fait des événements qui sont plus vus qu'à la télé. Parce que la télé, c'est vraiment des millions et des millions de gens qui regardent.
Ah, mais après, la télé, c'est une institution, quoi. Je veux dire, tu vois, là, tu combats quand même quelque chose. Hein.
Ouais. Et je pense qu'elle est quand même en train de péricliter, mais très, très, très lentement. Et donc, encore, pour l'instant. Et ça, c'est les audiences et c'est du quanti. Mais franchement, en termes qualitatifs, où est le curseur de ce qui est hot, tu vois, aujourd'hui, Les créateurs, c'est ouf. Le retournement qui s'est opéré, c'est ouf. Ils sont maintenant, c'est vraiment, effectivement, comme tu disais, c'est comme la musique dans les années 90.
C'est ça.
C'est totalement inversé, quoi.
Et aujourd'hui, du coup, si tu devais monter un business donc, dans la créateur économique, qu'est-ce que tu ferais ? Parce qu'aujourd'hui, donc là, t'es bien à brut et tout, mais si tu devais, je sais pas, on change de vie et on te donne du cash et tu dois monter un truc, qu'est-ce que tu fais ?
Bah déjà, c'est une bonne question. Tu viens de dire un truc important, c'est si on, c'est le cash. C'est que. non, mais.
Partons des deux cas de figure. Si t'as pas de cash, parce qu'en fait, c'est vrai que ça peut aussi induire en erreur. Donc, tu vas dire, ah, allez, je fais une start-up, je vais lever des fonds ou pas. Donc,
Bah, si tu me donnes pas de cash,
ouais.
Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose que j'imagine où tu peux vraiment tout bootstrapper de zéro. Il y a des trucs, mais c'est quand même limité. Et c'est marrant parce que tu m'aurais dit il y a un an et demi, tu m'aurais posé la question, ça n'avait rien à voir, tu vois, le marché, il n'avait rien à voir, le marché d'accès au financement dans la créateur économie n'avait rien à voir. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'accéder à du financement. Maintenant, moi, j'ai vraiment une conviction sur les créateurs, c'est leur capacité à convertir, et j'ai une autre conviction, c'est qu'ils ne peuvent pas convertir sur NIMP non plus. Et donc, je trouve qu'il y a beaucoup de services qui se sont développés, qui, bah, malheureusement, il y a beaucoup de boîtes qui galèrent, tu vois, dans la créateur économie. Tu vois, Patreon, par exemple, c'est déjà des gros succès, des grosses valos et tout, mais Patreon, c'est pas très en forme, parce qu'en fait, quand tu proposes juste un espace où tu vas pouvoir étendre et augmenter la relation entre un créateur et sa communauté de fans, bah, tu fais, faut avoir des trucs vraiment lourds à leur vendre aux fans pour qu'ils dépensent de l'argent, surtout dans un moment où il y a 15% d'inflation, où je connais personne qui n'est pas, tu vois, impacté par le fait qu'il faut serrer la ceinture. Donc, et le truc qui me convainc, c'est justement, on a parlé tout à l'heure d'Ariel, qui augmente et qui fait du coup, lui, en gros, il accompagne des super créateurs qui vendent du knowledge, qui vendent de la compétence et de la connaissance. Et lui, en plus, il organise le truc, il en fait un cours et tout. Ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Donc moi, si je devais monter un business, et je pense que ce serait un bon business, mais il faut du cash, et je pense qu'aujourd'hui, du cash, c'est très compliqué d'en avoir, ce serait un business dans les masterclass, dans le domaine de la knowledge economy, qui aujourd'hui est dominé par des marketplaces comme Open Classroom ou...
Quand tu parles de, je pense à Udemy et compagnie.
Ouais, Udemy, exactement, ouais. Je pensais à eux, qui sont les leaders d'un côté... qui c'est catastrophique la qualité du contenu dessus, tu vois.
J'ai déjà fait des cours.
C'est des cours vidéo en plus. C'est des cours vidéo, tu vois. T'as des cours vidéo, t'as des mecs qui vendent des cours, mais c'est catastrophique la qualité de l'image. Alors qu'aujourd'hui, t'es dans un moment en plus, non seulement en termes d'accès au matériel, mais surtout d'amélioration d'image par l'IA, qui fait que tu peux vraiment faire beaucoup mieux. Et de l'autre côté, t'as les LMS, qui sont du coup des Learning Management Systems, qui sont des boîtes qui vont t'aider à créer ton cours de zéro. Mais après, elles te prennent juste un abonnement et toi, ton cours, tu vas l'héberger où tu veux. Et donc, ce n'est pas du tout le principe des marketplaces qui te prennent parfois, pour le cas du Demi, jusqu'à 70 ou 80% de la valeur, tu vois.
Ah ouais, c'est quand même assez énorme. C'est énorme, hein,
ouais.
C'est
une vraie taxe. Ils gèrent le marketing, ils gèrent le trafic. Ouais. C'est eux qui amènent le trafic, donc ils prennent des taxes. C'est féodal.
C'est le cas de le dire.
Ouais. du coup, moi, je montrais un business où tu utilises l'IA pour automatiser la création de masterclass. Tu crées l'ADN avec de l'IA, tu pousses les gens à générer de l'image de qualité avec un peu d'operations, tu vois, en mettant le bon micro, le bon truc, la bonne light et tout, le bon tuto pour apprendre, mais surtout tu améliores tout avec de l'IA derrière pour que ce soit parfait, que ce soit magnifique. En gros, tu fais du masterclass, mais tu le fais à scale. Et ensuite, soit tu héberges ça sur une marketplace et tu fais du coup, tu te crées de l'asset pour toi. Je pense que c'est le meilleur business. Parce que du coup, tu crées ton asset en fait. Et l'asset, ça va être des vidéos evergreen de créateurs. Parce que surtout si c'était moi, j'irais taper dans tous les créateurs que je connais et j'en ferais des masterclass. Tu vois, je leur ferais faire des masterclass sur leur talent, quoi, sur ce qu'ils savent faire. Donc, j'irai voir des pâtissiers, j'irai voir des musiciens, j'irai voir des... Mais je suis papa depuis...
Oh, félicitations.
Ouais, merci, depuis février. Ouais. Donc, j'ai d'autres priorités. Je suis très content chez Brut, très heureux chez Brut en plus. Et encore une fois, c'est pas le moment de monter des boîtes. si t'as besoin de cash, en tout cas, je pense que c'est pas le moment.
Ok, cool. Alors, je sais pas si c'est une question qui était relative, parce que là, t'as quand même donné énormément d'infos. Et du coup, si tu avais du cash à investir dans une boîte de créateur, tu mettrais où ?
Franchement, augmente, hein, la boîte d'Ariel.
Aïe, aïe, aïe.
Ariel. Ouais, ça fait un moment que j'ai pas parlé, donc il va, en plus il va être surpris, mais on s'était parlé avant l'été. Ouais. Et en fait, je suis convaincu par le gars, je suis convaincu par le projet, je suis convaincu par les invités, je suis convaincu par tout, quoi. J'ai un doute, c'est le pricing, mais de ce qu'il montre, j'ai l'impression que tu vois, il arrive quand même à transformer. Et c'est chambé qu'un truc comme ça existe en France. Donc en petite boîte, en petit niveau de levée,
ouais.
Business Angel, ça. Et puis sur des trucs plus gros.
Ouais, genre t'as un fond, tu mets ton gros ticket là.
Alors mon gros ticket, je peux choisir deux quand même, deux grosses boîtes.
Vas-y, si tu veux, vas-y.
Bah, je prendrais Kajabi, qui est du coup le leader du LMS, qui pour le coup a tout un truc, IA Studio et tout, donc ils font une partie de ce que je t'ai dit avant,
ouais.
mon idée. ils la font et je pense qu'ils vont développer ça à fond et tout. Et puis c'est une boîte qui est très porteuse parce qu'elle est leader sur un truc, sur une partie de la créateur économique qui, à mon avis, est la plus résiliente. Et une autre, c'est Spotter, qui est une boîte qui licencie du contenu YouTube avec de la tech, de la très bonne tech. Boîte californienne, j'adore.
C'est marrant, j'aurais vous avez passé ma liste, hein, tu vois, c'est
Spotter, j'aurais adoré, parce que ça va, c'est un carton financier, ouais. C'est un putain de carton. C'est pas le truc le plus sexy de la terre ce qu'ils font. Ils achètent du back catalogue en gros et donc.
Mais c'est smart en fait, c'est simple, tu vois, c'est efficace en fait, tu
vois. C'est tellement, c'est parfait quoi. Tu vois, pour moi c'est un business qui va pas prendre une ride, ça va faire que se développer. Et d'ailleurs. Sans dévoiler trop de secrets, mais il y a beaucoup de boîtes qui s'intéressent à ça, y compris des gros leaders de la créateur économique, tu vois. Donc du rachat de catalogue, il y a beaucoup beaucoup de gens qui en font. Et encore, en fait, c'est même pas un secret, je sais pas pourquoi je le dis comme si c'est une confidence, mais tu vois, je sais que Jelly, ils le font, ils en parlent, ils le font savoir. Mais le truc, c'est que Spotter, ils ont une techno qui est...
Qui est costaud.
Ouais.
T'as déjà parlé à cette équipe-là ou...
Ouais, okay. Je les avais rencontrés là-bas. Okay. Et puis on a un peu communiqué avec leurs commerciaux. Mais okay. Eux, ils sont. En plus, c'est le futur, ils sont dématérialisés.
Ah ouais,
ah ouais, ils ont des commerciaux. Je crois pas qu'ils aient un bureau à Paris. Enfin, c'est...
Oh non, mais je crois, de ce que j'ai vu, c'était tous aux US ou en tout cas.
C'est une toute petite boîte. C'est une petite boîte qui fait des millions.
C'est ça qui est dingue en fait. C'est qu'ils sont pas... Mais après, je me dis, dans le choix des talents, ils doivent être très très exigeants. Tu vois, je pense,
pour l'instant, ils le sont. Mais parce que ils sont obligés de s'assurer, tu vois, des succès. Mais je pense qu'une boîte avec plus de reins financiers, ce qui va finir par arriver, je pense qu'ils vont pouvoir licencier plus de contenu et ça va devenir un énorme empire.
Ok.
Et moi, je suis sûr, ma petite conviction, c'est que les MrBeast et tout, les mecs qui ont beaucoup de cash, ils vont commencer à faire ça aussi. Ils vont racheter des chaînes.
C'est un peu comme, c'est un peu comme dans l'univers du sport. Genre, t'es un bon sportif et après tu décides d'avoir ton agence ou alors d'avoir ton club aussi. Tu vois.
Ouais.
Et dernière question, avant toute dernière traditionnelle, c'est quel conseil tu donnerais à une marque qui veut faire du business avec des créateurs de contenu? Vu que toi, du coup, tu vois un peu ce genre de truc-là, est-ce qu'il y a des rookie mistakes à éviter, tu vois, pour une petite ou une grande marque? Parce que je pense qu'il y a quand même des créateurs, on voit ça comme une chose accessible, parce que c'est vrai qu'ils marketent un peu comme des gens accessibles, mais peut-être qu'il y a des codes à avoir ou il y a des erreurs à pas faire, tu vois.
Alors, ça dépend de ce que tu cherches à faire et quelle typologie de marque. Parce que si tu veux faire de la notoriété, forcément, il faut quand même quelqu'un, des visages qui soient très reconnus, etc. Mais bon, ça, du coup, c'est vrai, c'est pas parce que tu travailles avec des créateurs que c'est vrai. C'est vrai pour tout, tu vois. Si t'es une marque, tu veux travailler avec un musicien, bah, vaut mieux prendre un musicien connu si tu veux faire de la notoriété. Donc, si on parle de l'autre grosse typologie de campagne qui est la conversion, donc plus bas de funnel, je dirais qu'il faut justement pas se planter sur le mirage un peu de la notoriété, parce qu'en fait la capacité de la personne à convertir et donc à embarquer les gens dans une histoire qui inclut la marque est beaucoup plus importante selon moi que sa notoriété, parce que de toute façon sa notoriété, il va te vendre du repost, tu vois, mais il va t'en faire un et tout ça c'est d'exposition, mais ça peut coûter très très vite très cher. Et je pense que c'est beaucoup moins vertueux que quelqu'un qui va te raconter ton histoire comme personne n'est capable de le faire. Et c'est pour ça que, sur le bas de funnel, un très bon créateur ou un influenceur, mais qui est vraiment pertinent, etc. Et encore plus, alors là, si on parle de live streaming, pour le coup, ça je peux le dire, c'est tu fais du live, tu vois. Donc le live, c'est pas, tu fais pas du live pour les audiences, tu fais du live pour convertir. Donc il faut des gars qui convertissent. Et donc c'est vraiment la capacité créa à raconter des histoires, à, tu vois, à aller embarquer des gens. C'est beaucoup plus important. Je pense que le truc numéro un. Et puis après, bah, c'est faire gaffe aux agences, à leurs filles, aux marges qu'elles prennent. Toujours essayer de passer en vertical, surtout qu'en France, c'est quand même vraiment possible de ne pas passer par les agences. Mais c'est, voilà, après, quand tu es une marque, tu n'as pas toujours le choix. Et puis, bien négocier.
Les classiques, ouais, à la fin.
Bien négocier, ouais.
Ok. Bah, écoute, dernière question avant de te laisser. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut te contacter comment...
Bah, sur LinkedIn, mon pote.
Ok, ça, Samuel Bourra. Ouais, t'as pas Twitter, t'as pas des...
Ah non, non, j'ai pas Twitter. Okay. Ouais, non, j'ai le seul réseau sur lequel je communique et mon réseau un peu de network, c'est LinkedIn. Mais par contre, je réponds à tout le monde. Pas mal de sollicitations, en risque. Il y a beaucoup de questions sur la créateur économie.
Ouais.
Et donc, je réponds à tout le monde, peu importe qui m'écrit, okay. J'essaie de toujours répondre. Et...
C'est bien ça, les gens comme ça qui répondent à tout le monde.
Ouais, bah,
enfin, je dis ça, mais même moi, des fois, je suis dans la...
Je suis pas Beyoncé, hein. Bah, écoute, j'ai 500 000... Non, non, ouais.
Non, mais c'est cool, quoi. Donc, il y a un réseau sur lequel on peut te contacter si besoin. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ton temps.
Merci de m'avoir.
C'était excellent. Et puis, ravi de te revoir plus tard dans l'écosystème sur Paris ou dans d'autres pays, vu que tu vas être amené à voyager.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Cet épisode est produit par le réseau de podcasts Air Party. Pour retrouver tous les épisodes de Planet Creators ainsi que les autres émissions de notre réseau, une seule adresse, airparty.network. À bientôt.